Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash info.
Bonjour, à la une de l'actu, de nouveaux bombardements au Moyen-Orient après les explosions toujours inexpliquées hier dans le centre de l'Iran. C'est en Irak cette nuit que plusieurs détonations ont été entendues. Les bombardements ont touché une base militaire occupée par des soldats pro-Iran. Le premier bilan fait état d'un mort et 8 blessés, mais reste incertain. Là encore, aucune revendication pour le moment. Cette scène choquante en marge du procès de Donald Trump maintenant aux États-Unis. Un homme a tenté de s'immoler par le feu hier devant le tribunal de New York. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Son geste a été commis dans une zone réservée au soutien de Donald Trump. Ses motivations restent floues pour l'instant. L'homme aurait jeté des tracts conspirationnistes avant de s'asperger de liquide. Ils ont passé une première nuit en prison. Les deux mineurs de 14 et 15 ans ont été mis en examen pour l'assassinat de Philippe à Grande-Synthe. Ils sont soupçonnés d'avoir lynché le jeune homme en début de semaine. Déjà connu de la justice, les suspects ont reconnu avoir donné rendez-vous à leur victime via un site de rencontre avant de le passer à tabac. Elle dénonce une tentative d'intimidation politique. La candidate de la France insoumise aux élections européennes, Rima Hassan, se dit stupéfaite de sa convocation en justice. Elle est soupçonnée d'apologie du terrorisme autour des attaques du Hamas en Israël. La France insoumise dénonce des manœuvres calomnieuses et inacceptables. Un week-end de chasse et croisée sur la route, les trois zones sont en vacances. Bison Futé annonce une circulation plus dense qu'habituellement. C'est donc orange aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens. Orange également en Île-de-France pour les retours, la région parisienne où l'autoroute A13 vers la Normandie restera fermée entre Paris et Vaucresson jusqu'à lundi au moins, conséquence d'un mouvement de terrain. Et puis le sport et le football pour terminer. Suite aujourd'hui la 30e journée de Ligue 1, à suivre le derby Nantes-Rennes à 17h. Lens vise toujours l'Europe face à Clermont à 21h. Hier soir en ouverture, Nice a dominé nettement Lorient 3-0. Et voilà pour l'essentiel de l'actu. Je vous souhaite une très belle journée.
La météo dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le temps est ensoleillé sur la totalité du département. Ce matin, on note entre 10 et 14 degrés. Cet après-midi, il fera jusqu'à 19 degrés à Montpellier. Demain dimanche, le soleil sera toujours au rendez-vous dans l'Hérault avec des températures maximales de 20 degrés à 7. Je vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva, à Montpellier, Vendargues et Cournon-Terral, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Conviction, engagement et valeur les ont conduites à un parcours d'exception. Chaque semaine, découvrez deux femmes mises en lumière par le fil rouge du Midi Libre. Elles se livrent à Perla Danan au micro de Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous. Alors nous retrouvons cette semaine les femmes du fil rouge du Midi Libre, Nathalie Bulcar-Grégoire, bonjour.
Bonjour.
Et elle est accompagnée de sa filleule, Béatrice Mortier, bonjour.
Bonjour.
Alors deux femmes du fil rouge, engagées dans la vie professionnelle, la vie privée on va le savoir tout à l'heure. Et donc Nathalie Bulcar-Grégoire, vous dites vous que en fait... Je revendique mon provincialisme, être dans la capitale, c'est très intéressant et instructif, mais travailler en province, c'est être au plus près de l'esprit entrepreneurial. Alors bravo. Là, vous êtes bluffée. Hein.
Ah, je suis complètement bluffée. C'est remarquable. Je me souviens avoir dit ça. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel je l'ai mis, effectivement. Mais c'est, oui, c'est tout à fait cela. Je suis une vraie provinciale et je suis fière de l'être. J'ai eu l'occasion de travailler dans mon parcours professionnel à un certain moment, justement, sur Paris. Et le constat que j'ai fait... Alors, c'est génial de bosser sur Paris parce que vous avez du business partout.
Ça bouge
énormément. Ouais. Et puis, les opérations sont magnifiques. Mais avec le client, on n'a pas la même relation. Non. On n'inscrit pas dans la durée.
On perd un peu pied.
Oui.
On est un peu dans le moment présent, ça passe et ça, on passe à autre chose. Alors, donc on voit bien qu'au niveau déjà personnel, les relations humaines, ça compte.
C'est essentiel.
Vous en avez sûrement fait le terreau de votre activité. Alors, quelques mots sur vous. Vous avez 53 ans, diplômé d'une maîtrise de sciences éco et gestion. Vous avez effectivement, vous êtes né à Lille, vous avez débuté une carrière un peu à travers la France. Et puis, toujours en lien avec le marché des entreprises, hein, ça c'est une constante. On surveille où sont les courbes de marché. C'est ça ?
Alors, effectivement, je suis tombée dans la marmite, c'est ce qu'on appelle le marché de l'entreprise. Marché de l'entreprise,
c'est familial.
Non, pas du tout. Alors, le marché de l'entreprise en banque, c'est vraiment être l'interlocuteur privilégié, d'être un chargé d'affaires auprès de cette clientèle que sont les entreprises, tout simplement.
Et donc, ça vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine ?
Alors, je pourrais en parler des heures de ce métier. Moi, je suis toujours admiratif des chefs d'entreprise. C'est d'abord des personnes qui sont audacieuses. On le dira jamais assez, c'est eux qui font tourner une économie, c'est eux les créateurs de valeur, c'est eux qui créent de l'emploi. Ils prennent du risque et ils le prennent en plus avec une forme, si vous me permettez, un peu aussi des fois d'inconscience. D'ailleurs, j'aime bien dire, bien heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Et pour le coup, je pense que pour être chef d'entreprise, il faut être un petit peu fêlé parce que c'est assumer beaucoup de risques. De pas forcément en avoir le retour, mais ce qui est certain, c'est que c'est justement cette audace qui les caractérise, qui leur permet de porter si loin justement leur conviction, leur capacité de création.
S'ils n'étaient pas un peu fêlés, comme vous le dites, ils auraient peur de toutes ces contraintes et de tous ces engagements et toutes ces responsabilités. Donc, ils auraient fait marche arrière. Donc, heureusement qu'on a des fêlés et qu'on espère en avoir beaucoup dans la région parce qu'on a besoin de développer l'économie. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon en charge du pôle banque de développement régional, mais ça n'était pas suffisant.
Non. J'ai plusieurs casquettes, effectivement, mais je vois que vous êtes très très bien renseignée.
Et donc, vous êtes aussi présidente du conseil d'administration d'une société anonyme de coordination, l'IASAC, habitant en région Occitanie, c'est sur l'habitat, pardon.
Alors, c'est sur le logement social. Donc, oui. Effectivement, j'ai cette particularité de m'investir beaucoup sur le marché du logement social parce que c'est une conviction forte. Il faut pouvoir, je dirais, dans les besoins primaires de chaque individu, de chaque être humain, c'est d'avoir un toit, un foyer. Et pour le coup, oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est un besoin essentiel et c'est là où on se retrouve, justement, avec Béatrice, ce sujet de la construction qui est juste essentiel parce que c'est ce qui porte aussi une dynamique de territoire.
Bien sûr. C'est à la fois un outil de cohésion sociale.
Totalement. Vecteur essentiel de cohésion sociale.
C'est énorme. Aussi un outil d'épanouissement pour les gens, pour chacun, pour les familles. Et puis enfin, effectivement, c'est important dans une région d'avoir des gens qui sont bien et qui peuvent se dédier justement au développement de leur carrière ou de leur famille, selon le choix. Hein. Donc, est-ce que vous avez d'autres activités ?
Alors, d'autres activités, oui, j'en ai forcément à titre personnel. Heureusement, je fais pas mal de sport. C'est ce qui me permet aussi de me décharger et de me recharger par la même occasion.
On m'a dit dans un petit coin de l'oreille que vous aimez bien voyager.
Aussi, beaucoup. Absolument, c'est une grande passion, le voyage.
Donc, Nathalie Bulcart, vous êtes... Bulcart Grégoire, pardon. Vous êtes une femme occupée.
Oui, bien occupée. Bien occupée et heureuse de l'être.
Et avec des choses qui vous plaisent. Les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez un très beau sourire et les yeux qui brillent. Donc ça, c'est tout à fait intéressant quand on parle de ce que nous faisons au quotidien. Merci. En tous les cas, vous êtes la marraine. Vous avez choisi de marrainer Béatrice Mortier. Béatrice Mortier, donc vous êtes vous directrice générale d'ICAD Promotion Montpellier. Donc on est à nouveau dans le logement, dans l'habitat. Quelle spécificité sur ICAD ? Il y a quand même un aspect social, sociétal intéressant, important que tous les auditeurs ne connaissent pas. Donc, vous êtes associée fondatrice d'Advitam, hein, un promoteur immobilier avec plusieurs rachats de. Les sociétés immobilières se construisent par empilement, donc comme les sociétés pharmaceutiques d'ailleurs. Et j'aimerais que vous nous disiez un peu ce que vous faites à ICAD au quotidien, directrice générale régionale, c'est important. Qu'est-ce que vous avez pu insuffler là de votre personnalité que je connais un peu et qu'est-ce que vous avez pu insuffler ? Alors peut-être déjà un petit mot sur Icard. Effectivement, c'est un promoteur un peu particulier, oui. Parce qu'il est né de l'appel de l'abbé Pierre en 1954,
exactement.
Quand les Français avaient tellement de mal à se loger et ne serait-ce qu'à survivre. Donc c'est vraiment la Caisse des dépôts qui a créé Icard pour pouvoir loger, pour pouvoir créer des logements à une période où c'était absolument vital.
Donc on est à nouveau dans... fournir aux Français l'assise de base d'un épanouissement personnel,
le
besoin primaire.
Et à partir de là, effectivement, se sont développés plusieurs métiers, qui sont des métiers toujours primaires, c'est-à-dire dans la santé, beaucoup, puisqu'on est une foncière de santé, donc on crée des hôpitaux, des maisons de santé, etc., des EHPAD. Et puis après, de l'immobilier tertiaire, de commercial et autres. Et aussi, on travaille beaucoup avec les collectivités, donc on est vraiment un acteur du territoire.
Oui.
Et donc, par exemple, ici à Montpellier, on a pu faire la gare Sud de France ou Odysseum, qui sont des projets un petit peu d'envergure et un petit peu différents pour un promoteur.
Des projets importants, c'est rare d'avoir comme ça créé des nouveaux, comme ça, un centre...
C'est rare et c'est révélateur, en fait, de la proximité avec le territoire et avec les acteurs du territoire, puisque effectivement, c'est des besoins structurants, des besoins très importants. Quand on prend l'exemple de la gare Sud de France, des besoins complexes à construire. Ouais. Et donc, voilà, c'est par l'alliance avec les collectivités et puis le partenariat, bien sûr, avec la SNCF, qu'on a pu monter ce genre de produit.
Donc, vous êtes arrivé là, vous, avec un diplôme, de droit des affaires, droit fiscal, et puis, après des périples professionnels dans divers pays, vous vous installez à Montpellier en 2008. Alors, Montpellierenne d'adoption, heureuse de l'être.
Ouais, Montpellierenne de cœur, maintenant, oui.
C'est fini.
Comme Nathalie, je pense que...
Nous avons deux Montpellierennes de cœur bien ancrées dans le territoire. Alors, les valeurs d'ICAD, c'est...
On a vu
qu'il y a une partie développement durable, il y a une partie... Donc, quelles sont, en quelques mots, les valeurs clés qui font de vous, justement, un promoteur différent?
Je pense que déjà, on a des valeurs sociales extrêmement fortes, on les a évoquées, mais elles continuent à s'appliquer, puisqu'on est très, très différents dans le sens où on est très inclusif.
Oui.
Donc, on fait beaucoup de logements différenciants, donc pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées, mais différemment, c'est-à-dire des colocations, des choses qui nous permettent de continuer à être dans la vie, d'innover sur le plan social et puis, bien sûr, environnemental, puisque... On s'inscrit dans une charte bas carbone et aujourd'hui on construit de plus en plus vers le zéro artificialisation nette et vers le zéro, le bas carbone au maximum.
Alors une démarche, là on le voit, de prévention et de protection de la planète, il y a aussi, vous avez, ai-je vu, une démarche de plantation d'arbres, de plantation, de vraiment de faire poser des actions qui reconstruisent notre planète.
Alors, on a une vraie démarche sur la biodiversité. Oui. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un sujet, notamment en ville. Et donc, nous, on a créé une charte. Et notre charte, c'est un habitant, un arbre. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça nous permet de planter énormément et de recréer de la biodiversité en ville, là où ça, on en manque cruellement.
Alors, on est proche de la première pause musicale. En un mot, c'est dur de vous dire ça, un immeuble, une œuvre, vous avez envie qu'il y ait dans les immeubles de l'art, un peu d'art à portée de la population.
On travaille beaucoup, depuis longtemps d'ailleurs, moi, à titre personnel, avec différents artistes, donc soit intégrés dans l'immeuble, soit avec l'architecte, soit effectivement des œuvres qu'on rapporte.
D'accord.
Et donc, on travaille récemment, j'étais au téléphone avec Franck Seller avant d'arriver, puisqu'il nous fait des œuvres dans nos bâtiments.
Il est très doué.
Très doué et
très charmant, c'est un ami. Donc, ok, merci Béatrice Mortier. Hein, donc, je rappelle que vous êtes la filleule de Nathalie Bulcar-Grégoire. Aviva !
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Yeah.
chères auditrices, auditeurs, nous reprenons notre entretien avec les deux femmes du fil rouge du Midi Libre, Nathalie Bulcar-Grégoire et Béatrice Mortier. Alors, on a vu leur carrière et leur passion. On entrevoit comme ça leur passion pour mettre du sens de l'humain dans l'urbain. À présent, je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrées.
Alors, les occasions de se rencontrer, Nathalie, à mon sens, étaient nombreuses parce que, comme on l'exprimait tout à l'heure, c'est vrai que l'une comme l'autre, on a ce tropisme particulier pour la construction. Je dirais que c'est la personnalité de Béatrice qui m'a rapidement captée, parce que d'abord, c'est un compliment que je me permets de lui faire, d'abord c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu, parce qu'elle a une personnalité et dans un milieu très masculin, je pense qu'elle a trouvé sa place, qu'elle a su faire sa place, donc naturellement, c'est quelqu'un qu'on rencontre, et comme à côté de cela, c'est quelqu'un avec qui on a plaisir à partager un moment aussi, mais je dirais de façon naturelle, on a essayé de travailler ensemble. On peut se rencontrer sur des programmes immobiliers, puisque forcément ICAD est un constructeur, un promoteur incontournable. Nous accompagnons ces opérations de promotion immobilière et que naturellement, sur ce territoire qui est aussi riche en construction, les occasions de se croiser étaient forcément multiples.
Donc Béatrice, si je traduis, relations professionnelles, vous avez aimé l'une l'autre l'efficacité relative des deux et la façon de mettre un peu de cœur dans ce qu'on fait avec du sens.
Alors beaucoup de sens. Moi, c'est vrai, quand j'ai rencontré Nathalie, on s'est rencontrés sur un projet en particulier et un projet qui nous animait toutes les deux beaucoup. Et j'ai senti une écoute et une attention qu'on trouve rarement quand même chez les banquiers, il faut dire ce qu'il y a.
Alors toutes les deux, vous êtes dans des domaines où on imagine dans l'imaginaire populaire des gens très froids, très techniques et très financiers. Et là, vous êtes en train de nous dire que toutes les deux, vous avez tout à fait une autre approche. Est-ce que c'est ce qui vous a un peu lié aussi ?
Je pense que oui. C'est vrai que nos valeurs et notre attirance et notre passion pour notre métier qui nous a clairement liés. Mais on n'est pas dans des métiers forcément si froids que ça. En fait, c'est des images, je pense que...
Ce sont des images populaires.
Oui,
tout à fait. On vous voit comme ça, très loin des gens, très technique. Et c'est pour ça que là, c'est intéressant, parce que vous êtes complètement... Vous donnez vraiment la réalité du contre-exemple, vraiment. Hein. Et qu'est-ce qui est important pour vous, Nathalie Bulcar ?
Justement, je vais rebondir sur les propos de Béatrice. Oui, effectivement, je voudrais qu'on chasse cette image du banquier froid qui ne voit que des chiffres. Enfin, c'est tout autre chose, notre métier. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je ne le ferai pas avec autant de passion. Ce qui nous caractérise, justement, à Caisse d'Épargne, c'est que nous sommes une banque, j'ai l'habitude de dire, nous sommes une banque de territoire. Et on est là pour porter la dynamique de notre territoire. On est là pour le faire rayonner, notre territoire. Et donc, naturellement, la première valeur, et ça, on le porte, je pense, l'une et l'autre, c'est cette proximité que nous avons avec les acteurs qui composent notre territoire. Et on ne serait pas de bons banquiers si on n'avait pas cette capacité, justement, à bien en comprendre les enjeux de ce territoire et à pouvoir lui adresser, et forcément d'être en connexion étroite avec ceux qui font cette économie.
Avec vos clients, entre guillemets, absolument, avec leurs limites et leurs potentiels et leurs aspirations, et avec vous avez un devoir de conseil.
On a un devoir de conseil, on a un devoir de porter cette dynamique.
Oui.
Et comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est aussi de pouvoir accompagner les moments les plus difficiles aussi, simplement. On n'est pas toujours qu'en phase de croissance, on n'est pas toujours qu'en phase de réussite. Donc c'est ça, la proximité avec un banquier, c'est de savoir être présent à tous les stades de la vie d'une entreprise et de la vie de nos clients, de façon générale.
Faire front, finalement, faire face aux difficultés qui ne manquent pas d'arriver dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, évidemment.
Tout à fait. Alors Béatrice, moi, c'est vrai que de mon côté, ce qui m'a beaucoup plu chez Nathalie, comme j'ai été moi-même à la tête de mon entreprise Ad Vitam qui a été revendue à ICAD, j'ai eu des relations parfois un peu houleuses avec les banquiers qui n'étaient pas toujours très proches de l'entrepreneur que j'ai été. Et c'est vrai que Nathalie, elle, a cette approche totalement différente de soutenir l'économie, de soutenir les entrepreneurs et de se rendre compte à quel point c'est difficile et à quel point justement le rôle du banquier est fondamental dans cet accompagnement.
On reste humain par vraiment aspiration, mais on reste humain aussi par efficacité. Pour de l'efficacité, parce que si on est loin du client, j'allais dire du patient, si on est loin du client et de son projet, c'est compliqué de l'aider vraiment.
Et par conviction, je serais tentée de dire aussi, on est humain, parce que c'est ce qui nous caractérise, au-delà
de toute forme de structure, de recherche, de rentabilité, etc. Enfin, il y a des hommes et des femmes qui composent cette société et que naturellement, c'est ce qui doit nous animer et c'est ce qui doit nécessairement prioriser dans nos métiers.
Bien sûr. Nathalie, c'est important pour vous, cette humanité et de la transmettre. Vous êtes maman, je crois. Mmh. C'est un point qu'on transmet, ça ? Ou je sais par l'exemple, où on en parle ?
Ah, c'est forcément quelque chose qu'on transmet. Voilà. Alors, il y a un bagage familial, forcément, que l'on porte. Ce bagage qui peut être après plus ou moins lourd aussi en fonction d'un vécu. Mais naturellement, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est naturel. Et dans la mesure où c'est naturel, que c'est quelque chose qui vous vient spontanément, vous le transmettez nécessairement à vos enfants.
Bien sûr, bien sûr. Béatrice, vous êtes maman aussi. On transmet ça ?
On transmet par l'exemple, bien sûr, et puis on transmet par conviction et par partage aussi avec les enfants d'un certain nombre d'actions et de valeurs au quotidien.
Donc, c'est totalement fondamental pour toutes les deux.
Totalement fondamental. C'est le sel de la vie.
Exactement. Quelle est l'autre valeur qui vous rapproche comme ça ? On en a vu deux, déjà fondamentales, hein, la passion pour ce qu'on fait, la passion, l'intérêt pour les gens avec qui on travaille, apporter un peu dans leur vie, un peu de plus dans leur vie quotidienne, développer le territoire. Vous êtes finalement deux actrices de ce développement. Il est important pour chacun. Et donc, est-ce que pour vous aussi, communiquer, avoir une action associative, est-ce que vous avez le temps d'abord d'avoir des actions associatives ?
Peu, mais un petit peu quand même, parce que c'est fondamental de donner de son temps.
On rend ce qu'on a reçu.
Exactement.
Donc, ça, c'est
donc
important.
Il faut le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a un âge pour tout, hein, et il y a un temps pour tout dans la vie, mais effectivement.
Est-ce que vous, vous avez le temps, Nathalie ?
Alors, le temps, je l'ai pris. On va dire que je l'ai pris à un moment donné de ma vie, parce que quand les enfants étaient petits, ils étaient notamment en crèche.
Oui.
Une crèche qui était une crèche familiale. Donc, ben, naturellement, je me suis engagée dans cette structure pour pouvoir apporter là aussi ma contribution. De par mon profil, ben, j'en ai pris simplement la comptabilité, la trésorerie. Voilà, c'est des choses faciles.
Juste ça.
Mais il faut le faire quand même. Ça fait partie des choses essentielles au bon fonctionnement.
Oui.
Voilà, exactement. Après, je dirais, mon engagement, ben, parce que je pense que c'est aussi ce qui nous caractérise dans nos valeurs, c'est ce niveau d'engagement.
Oui.
Je pense qu'il est très marqué.
On le sent, là, toutes les deux.
Très marqué chez l'une, chez l'autre. Oui. Et je pense que notre engagement, on n'a pas nécessairement, je vais peut-être vous surprendre en disant cela, mais besoin l'illustrer au travers d'une action au sein d'une structure associative, notre engagement, on le porte par notre job.
En soi.
Moi, je suis très fière d'être membre de directoire, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Pourquoi ? Parce que c'est une banque qui a son utilité.
Oui.
Et en fait, c'est peut-être pour ça que je suis aussi engagée, parce que j'ai la conviction de faire partie d'une entreprise utile. Alors certes, on n'est pas une entreprise à mission, on ne se décrète pas comme cela, mais on est une entreprise qui a une mission d'intérêt général. Et tout à l'heure, vous l'évoquiez avec le logement social. Donc voyez, je ne fais pas de bénévolat dans une association. Par contre, je suis présidente de ce qu'on appelle une ESH, une entreprise donc, du logement social, dans lequel je consacre de mon temps, et qui est une forme de bénévolat, entre guillemets, parce que j'en porte la présidence.
C'est important, c'est du temps, c'est de la stratégie.
Et c'est du temps, c'est de la conviction. Et en fait, voilà, cet engagement sociétal, pour moi, il se traduit au travers aussi de mes missions professionnelles et extra-professionnelles.
Oui. Comment réagissez-vous toutes les deux quand les gens disent, quand c'est un logement social, personne ne s'applique pour que ça soit joli, agréable, etc. Je sens que ça va vous énerver. J'ai fait mouche.
Ça n'a plus de sens. D'abord, le logement social aujourd'hui est intégré dans toutes les résidences. Donc,
absolument.
Il est traité de la même manière, il est partout. Il est intégré et Dieu merci, c'est
heureusement,
une très bonne chose.
Heureusement, c'est une bonne solution ça, hein, quand même.
C'est une très bonne solution.
Cette mixité comme ça.
Et puis les bailleurs sont très exigeants. Ils sont très exigeants parce qu'ils vont gérer sur le long terme. Et donc, c'est des clients qu'on a en face de nous qui sont très conscients de la nécessité d'avoir une longévité et d'avoir des bâtiments pérennes.
Oui.
Donc, on travaille beaucoup en amont avec eux. Et le niveau d'exigence, je peux vous promettre, en logement social est le même qu'en logement libre.
Donc ça, c'est important de rappeler ça maintenant.
J'adhère complètement aux propos de Béatrice. Hein. C'est tellement juste. Le bailleur social, son parc, il va garder très très longtemps. Ce qui veut dire que naturellement, il va investir de façon très régulière dans sa rénovation, dans sa
maintenance,
son entretien.
Bien sûr.
Exactement, parce que ce patrimoine, il va le garder un grand nombre d'années. Donc, au contraire, je dirais avoir un bailleur social dans une structure immobilière, c'est quelque chose de très positif parce que justement, il va enclencher naturellement et de façon régulière tous les travaux nécessaires pour que justement ce bien reste en excellent état.
Donc vous êtes en train de nous dire que c'est une garantie finalement d'excellence parce qu'ils font attention à la gestion. Effectivement, un bailleur social va faire attention à la gestion de son bien pendant des années et au bien-être des locataires aussi. Tout
à fait. Et donc il va être exigeant à la conception.
Donc, pour nos auditeurs, nos auditrices qui ont comme ça des idées préconçues, c'est le moment de les corriger. On est rentré dans une ère de mixité avec des dirigeants au niveau de la promotion immobilière comme au niveau du financement, avec une exigence sociale, sociétale, de mixité sociale, etc. Donc, on est dans des contenus éthiques. Chers auditeurs, auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. On a eu le plaisir de recevoir Nathalie Bulcar-Grégoire, la marraine de Béatrice Mortier, deux femmes du fil rouge du Midi Libre que vous avez découvert dans les colonnes du journal. À bientôt sur cette antenne.
Vous venez de découvrir deux femmes du fil rouge du Midi Libre. Elles ont partagé avec vous leur parcours d'exception.
Aviva, bon week-end!
Timide, les mains tout abîmées, il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la peur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde. Plus que ça, seul je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il m'a fait tourner. Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. On ne m'oublie pas, vous qui me connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Plus là, si tu montes l'amour.
Radio Aviva vous invite à un concert de jazz sensationnel. Artfell en trio international, ce mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, en entrée libre. Vous les avez adorés sur scène pour les 40 ans de Radio Aviva. Retrouvez-les pour une soirée magique de standards jazz populaire, de Cole Porter à Irving Berlin, en passant par Bud Flanagan. Un répertoire palpitant sorti de l'anglo-american songbook sera célébré. Artfell au piano, David Cross à la trompette, Eric Gill à la guitare. Artfell Trio, mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, 6 rue Leva, à Montpellier.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaille.
Bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Éric Giraudier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la CCI du Gard, Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard. On va évidemment parler avec vous d'économie, d'industrie, de commerce, comme son nom l'indique, et de projets et d'initiatives. Ils sont nombreux, ces projets ici animent, impulsés par la Chambre de Commerce. Et je voudrais d'ailleurs démarrer par ce premier projet qui semble un peu iconoclaste. C'est cette convention de partenariat qui a été signée il y a quelques jours entre la CCI et le rugby club de Nîmes. Je crois que c'est une première, Éric Giraudier.
Oui, alors je ne sais pas si elle est iconoclaste. Est-ce que est-ce par la forme du ballon qui n'est pas rond?
Peut-être.
Non, effectivement, cette convention, moi, elle me semble plutôt logique. Elle me semble logique parce que le rugby porte des valeurs qu'on retrouve assez dans l'entreprise, qui sont des valeurs de travail, d'implication, d'engagement, de collectif. Je trouve que le président Steve Caligaro, avec son équipe, parce qu'il a une équipe de bénévoles, un peu comme nous avons une équipe d'élus, mm-hmm. et son équipe de joueurs, comme nous avons nous des collaborateurs à la Chambre de Commerce, ils ont un projet, ils ont des objectifs, ils ont une stratégie, et tout ça c'est très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils font participer à ce projet tout un collectif d'entreprises, hein, puisqu'il y a 200 ou 300 entreprises, et nous, les entreprises, c'est effectivement nos clients, nos interlocuteurs, donc il était tout à fait logique qu'on se retrouve dans ces valeurs, quoi.
Comment va se traduire cette convention? Comment allez-vous travailler ensemble?
Alors, on va travailler sur plusieurs axes. En fait, ça va être lors de manifestations, on va pouvoir faire passer des informations, des sujets ou des actions en cours de la Chambre de Commerce. Et on va sur le site, parce qu'il y a un site intéressant au Drop, hein, puisque le RCN a dorénavant est propriétaire d'un site que l'on utilise d'ores et déjà. En fait, on a déjà mené des actions là-bas, on a fait le prix de la TPE. On va avoir des actions, prix de la TPE, des réunions d'informations qui vont se faire sur place, qui se font déjà, puisqu'en fait, la convention, on a décidé de la faire sur l'année. On l'a signée là, parce que mais elle court sur l'année 2024. Nous, on n'a pas voulu la faire sur une saison, on a voulu la faire sur une année calendaire. Donc, en fait, on a déjà démarré des actions.
Vous êtes plutôt ballon ovale ou ballon rond?
Oh, moi, ballon ovale, rond, balle, tout sport, je suis multisport.
Tout sport, et vous regardez évidemment la situation des crocos ici à Nîmes. Alors là aussi, c'est une entreprise, hein, une grande entreprise qui est un peu en difficulté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce club de sport, vous qui êtes aussi un patron et un président de chambre de commerce, le collectif, rien que le collectif?
Oui, alors je ne me permettrai pas de donner trop de leçons, parce qu'il faut garder l'humilité, et puis il y a des responsables, il faut les laisser agir, et puis attendre la fin de la saison. Il y a un déplacement à Orléans vendredi, bon, il va falloir que effectivement le club puisse, il reste 5 matchs, hein. Je crois 2 à l'extérieur, 3 à domicile, avec quand même des équipes solides, Sochaux, Martigues, qui jouent encore la montée, donc ça va être le schéma est compliqué, mais on ne perd que les batailles que l'on ne mène pas, et un match ça se joue au-delà des 90 minutes puisqu'il y a le temps complémentaire, donc il faudra jouer ça jusqu'au bout et voir. Bon, je pense que voilà, il faut jouer les choses jusqu'au bout, et après il faudra en tirer les conclusions.
Je faisais le rapport entre le sport et l'économie parce qu'il y a des valeurs communes, vous le disiez avec le rugby, il y a le collectif, il y a les objectifs, il y a les ambitions, et il y a évidemment l'idée de tirer vers le haut tout un territoire. C'est ce que vous faites aussi à la Chambre de commerce, c'est ce que vous portez quand même.
Oui, c'est en tout cas ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire d'accompagner toutes les entreprises parce qu'il y a un tissu, bien entendu, comme sur l'ensemble de la France, de 85% de TPE dans le Gard. Mais il y a aussi des entreprises de taille intermédiaire. On a des leaders nationaux, de très belles entreprises sur ce département. Et il faut être en accompagnement de tous ces types de structures. Il faut être en accompagnement aussi ou en prospective sur des projets, sur des filières. Ça, c'est notre rôle. Il faut être aussi présent sur la formation.
Et présent aussi, on va y revenir évidemment sur la formation, sur l'ensemble des territoires. Parce qu'il n'y a pas que Nîmes, il n'y a pas que les grandes villes du département du Gard, il y a une diversité des territoires. Est-ce que ça, c'est assez simple de trouver cet équilibre sur l'ensemble des territoires quand on est le président de la Chambre de commerce et d'industrie ?
Est-ce que c'est simple ? La réponse est non. Est-ce que nous devons le faire ? La réponse est oui.
Comment ?
Le Gard est vraiment d'un département à l'autre, c'est assez différent. Le Gard, c'est pour ceux qui le connaissent bien, et l'INSEE d'ailleurs le reconnaît de cette manière-là, on a plusieurs bassins d'emploi sur le Gard. Le bassin de Nîmes, qui en gros va de Beaucaire à Galargues, le bassin d'Alès, le bassin de Bagnoles et le bassin des Cévennes. Hein, on a ces quatre bassins d'emploi qui sont des réalités historiques, géographiques, de flux d'emplois, de bassins de vie, de bassins d'emploi. Donc si on veut bien travailler, il faut coller à ces bassins. Et nous sommes la seule CCI d'Occitanie, même si nous ne partageons pas ce point de vue avec notre région, je parle de la région CCIO, nous sommes la seule CCI d'Occitanie à avoir gardé des délégations. Donc nous avons une délégation, qui est une entité à Alès, une délégation à Bagnoles, avec des élus de cette délégation.
Vous y tenez ?
Nous y tenons, nous sommes la seule, et je tiens là-dessus mordicus. Et nous jouons vraiment le jeu de la continuité territoriale, puisque au Vigan, nous avons gardé une structure avec des collaborateurs de la Chambre, au Vigan, dans la maison de pays, pour avoir cette présence, cette proximité sur l'ensemble du territoire. Parce que vous l'avez dit, bien entendu qu'il y a de la transition numérique, bien entendu qu'il y a de plus en plus de digital partout, mais la nécessité d'être bon et présent sur le digital fait, à mon sens, parallèlement, monter un nécessaire besoin de relations directes, physiques, qui, elle aussi, doit être de plus en plus qualifiés.
Ça veut dire aussi que dans chacun des territoires, des pôles de compétitivité, des pôles d'attractivité peuvent être imaginés, qui sont différents quand on est à Alès, je pense au pôle mécanique, quand on est sur Nîmes, avec des entreprises, tiens, comme le grand groupe de cosmétiques Clarins, qui a annoncé son installation à Générac et à Saint-Gilles.
Oui, alors vous avez raison, pôle de compétitivité ou filière, pôle de compétitivité ou filière, il y a effectivement une très belle réussite parce que le pôle mécanique, c'est une très belle réussite, on accompagne des entreprises là-dessus, SAM, etc. On a une spécificité, bien entendu, nucléaire, énergie décarbonée et commandable, parce que le nucléaire, c'est de l'énergie décarbonée, commandable, parce qu'il y a d'autres énergies décarbonées qui ne sont pas commandables. Et si on n'a pas d'énergie commandable, avoir beaucoup de, et c'est très bien, il faut développer le solaire, mais avoir beaucoup de solaire entre 12 et 14 heures entre le mois de juillet et d'août, ça suffit pas quand il fait très froid l'hiver, c'est voilà. Donc effectivement, ces notions-là, il faut coller aux réalités du territoire, les accompagner. Clarins, vous l'avez dit, moi je suis très heureux, j'ai vu ça, j'aimerais bien qu'ils mettent leur siège, c'est très intéressant. Mais bon, dans leur projet, c'est très bien qu'une entreprise comme celle-ci s'installe. Bon, dans ce que j'ai compris du projet, voilà, ça mais c'est très bien qu'ils viennent dans le... Je pense que c'est aussi la reconnaissance de ce territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de monter en gamme, c'est-à-dire que on peut, sur un département comme le nôtre, associer de l'industrie lourde, de l'industrie de pointe, de la recherche. On peut associer de l'automobile, on peut associer de la pharmacie, mais aussi on peut associer une grande montée en qualité de service, en notoriété, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et avoir un environnement qui soit top, parce qu'une boutique comme Clarins, vous le savez que depuis longtemps, ils n'ont pas attendu le bio, c'était leur gimmick depuis 30 ans, hein, Clarins, donc sur leur matière première, ils ont toujours été axés là-dessus. Et le fait qu'ils viennent dans le Gard, c'est pas le fait du hasard. Hein. C'est-à-dire que depuis longtemps, sur cette partie-là, Sud-Gard, donc on se trouve sur ce terrain, sur la rupture de la Costière, avec vue sur les étangs, on est au-dessus des étangs de Beauvoisin, etc. Effectivement, on est sur des lieux extrêmement préservés, extrêmement qualitatifs.
Vous ne créez pas de l'emploi, mais vous favorisez l'emploi en installant, en permettant, en aidant, en accompagnant l'installation des entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, ces entreprises-là ? Les transports, le loisir, le fait qu'il y ait aussi une coordination entre les institutions et les élus ?
Oui, tout ce que vous dites est très vrai. J'allais dire qu'il y a autant de demandes qu'il y a d'entreprises, et dans le Gard, elles continuent d'augmenter, hein, puisque quand j'ai démarré mon premier mandat, on était à 42 000 entreprises, 46, 47, donc elles augmentent, le nombre d'entreprises augmente en permanence, hein, sur le Gard. On garde une dynamique de création d'entreprises, de création d'emplois, de création de valeur. Mais j'allais dire, il y a presque autant de demandes qu'il y a d'entreprises, mais il y a des grands segments, vous les avez cités. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est effectivement les entreprises qui créent de l'emploi, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, parce que la création d'emplois, c'est aussi ce qui permet de financer le modèle social, c'est ce qui permet de financer la santé, la retraite, toutes les couvertures, le modèle social qui a été construit dans le cadre d'un consensus du Conseil national de la résistance en 46. Et ce modèle social, il est basé quand même sur de la productivité, sur de la création de valeur. Et ce qui me gêne un peu, c'est que moi je suis très républicain, très attaché à ce programme-là, mais ce programme-là, il ne tient que s'il y a du travail, que s'il y a de la production, que s'il y a de la création de valeur. Et quand un pays comme le nôtre perd en productivité, ça signifie, et ceux qui ne veulent pas défendre la productivité, ceux qui sont dans des logiques de décroissance, ça veut dire qu'ils rejettent le modèle social français républicain tel qu'il s'est construit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je crois qu'à un moment donné, il faut se dire les choses. Hein, pour financer du logement social, pour financer un certain nombre de choses, il faut créer de la valeur, il faut de l'emploi, il faut
des entreprises et des entrepreneurs.
Absolument, absolument. Et c'est eux qui créent l'emploi, c'est eux qui créent de la valeur. Nous, humblement, on essaie de les accompagner. Alors, les accompagner, c'est effectivement sur de la création, sur de l'implantation, sur des projets, c'est sur de la formation, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des problématiques de formation. Nous formons aujourd'hui plus de 4000 personnes sur le département. Hein. Nous sommes les deuxièmes
formateurs. Avec vos différents établissements.
Avec nos différents établissements. On démarre au CAP, on va jusqu'au bac plus 5. C'est vrai à Marguerite, c'est vrai à Nîmes, c'est vrai à Alès, c'est vrai sur l'ensemble du département. Nous avons de jolis projets qui sont, on va pouvoir, je pense, annoncer dans les semaines qui viennent, hein, au travers de notre filiale Purple Campus. Hein. Purple Campus, c'est la formation de la CCI dans le Gard.
Qu'est-ce que vous pourriez annoncer dans quelques semaines ?
C'est pas encore fait. Donc,
en tout cas, un développement de Purple Campus sur le territoire.
Année, en fait, nous sommes en permanence en développement. Nous, on n'est pas sur des grosses cohortes. On n'ouvre pas une formation d'un coup avec 300, 400 personnes. Non, nous, c'est par cohorte de 20, 30, 40. Sauf que les 20, 30, chaque fois qu'on ouvre quelque chose, tous les jeunes qui viennent chez nous, jeunes ou moins jeunes, ça peut être la formation continue, ils ont un emploi, voire deux ou trois propositions à la sortie. C'est-à-dire que nous, on fait du 100%, du 100% pour le territoire. Notre triptyque, c'est quoi ? C'est les hommes, les entreprises, le territoire. C'est-à-dire qu'on forme des personnes du territoire, jeunes, salariés d'entreprise, futurs créateurs, pour les entreprises du territoire.
Pour qu'elles restent sur le territoire et qu'évidemment elles tirent vers le haut le territoire.
Absolument.
Oui. Et donc ça veut dire que vous êtes aussi à l'écoute de besoins, d'attentes de chefs d'entreprise pour relocaliser des formations.
Pour répondre au quotidien à leurs besoins de formation qui évoluent très vite. Il y a des référentiels parfois au niveau national qui sont lourds à faire évoluer. Et parfois, il faut aller chercher de la souplesse en allant sur des CQP, certificat de qualification professionnelle. Il faut aller dans la souplesse pour trouver des solutions qui soient rapides, efficaces, On est de plus sur l'apprentissage, sur l'alternance, parce que c'est d'excellents moyens. Ben moi, ça fait, c'est un sujet que je porte depuis 25 ans. Mm-hmm. On prend toujours l'exemple de la Suisse. La Suisse, la moitié des cadres sont passés par de l'apprentissage ou de l'alternance.
Quand vous entendez que le gouvernement pourrait rogner sur le soutien à l'apprentissage, à l'alternance dans les entreprises, ça vous énerve ?
Ça m'énerve pas, mais c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure. C'est-à-dire que on a un système qui fonctionne bien. On veut pas le casser, mais on veut le diminuer. Et c'est stupide parce que on dit oui, mais regardez, alors peut-être par taille d'entreprise, par machin, etc. Mais les bénéficiaires, c'est aussi les jeunes. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui bénéficient de ça, si vous réduisez le nombre d'apprentis ou d'alternants, eh ben, ça signifie qu'on a des personnes qu'on va laisser un peu plus loin de l'emploi, qui vont rester un peu plus longtemps au chômage, et c'est des très, très mauvais calculs.
On évoque beaucoup dans les filières qui ont du succès dans ce département, évidemment, le tourisme, mais on oublie trop souvent l'innovation. Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a le Big InnovUp ici sur ce territoire. Là aussi, c'est une fierté assez méconnue quand même des Gardois.
Alors, assez méconnu sur un large public, ouais, et très bien connu du public ciblé.
Ah, donc voilà,
vous avez tout à fait raison. Donc nous sommes une des rares CCI, peut-être la seule en France, à porter un BIC, ouais, de la même manière que nous sommes les seuls à porter un lycée de formation professionnelle, privée, laïque, sous contrat.
Hein. C'est 800 élèves, c'est ça ce lycée ?
C'est 790, 800, et là, justement, la construction de la maison de l'entreprise va nous laisser de l'espace, et du coup, on va pouvoir faire d'autres travaux et agrandir cette partie lycée. Mais pour revenir à ce que vous évoquiez, oui, l'innovation, c'est important parce que l'innovation, on en a derrière dans le tourisme. L'innovation, ça peut être lié à de la création d'entreprise ou ça peut être un projet au sein d'une entreprise existante. Donc, on a aussi des grandes entreprises qui peuvent, dans des logiques d'essaimage, envoyer un cadre ou une structure qui va venir incuber, développer un projet au sein du BIC. Et depuis une trentaine d'années, mm-hmm, on a eu des choses extrêmement intéressantes. Ça fait des créations d'emplois. C'est vraiment une logique particulière et je crois que c'est vraiment un plus. La qualité du BIC est reconnue. On a une zone d'intervention qui est assez large, qui va même au-delà de ce territoire. On est parfaitement articulé avec le BIC de Montpellier, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en concurrence. On a quand même des logiques, des typologies d'entreprises, ouais, voire des typologies de projets sur lesquels on s'est assez bien coordonné. Et je crois que c'est effectivement une chance pour le territoire. Mais vous avez raison. Nous ne le faisons pas assez connaître. Donc
c'est l'occasion de le faire à ce micro, voilà, de Radio Aviva avec Midi Libre. Sur l'intelligence artificielle, on peut imaginer qu'il y ait des projets. On sait qu'à tout près, à Montpellier, la ville a fait de l'intelligence artificielle un projet de territoire finalement. Est-ce que ça peut être le cas ici ?
Alors, nous, je ne veux pas trop dévoiler, puisque nous allons avoir un déjeuner de presse auquel vous serez conviés le 26 avril, après notre AG du 22 avril, le lundi prochain, mais nous allons porter sur ce territoire un sujet sur l'intelligence artificielle, un laboratoire. C'est-à-dire que beaucoup de gens parlent d'intelligence artificielle, font des déclarations, etc. Nous, on ne va pas se positionner sur le développement, hein, le big data, etc. On va se positionner, et ça sera l'objectif de ce laboratoire qu'on présentera un peu plus amplement dans la maison d'entreprise. Ce laboratoire, ça va être dire, j'ai une entreprise XY, je vois qu'il y a tel sujet qui arrive dans l'intelligence artificielle. Comment je peux les implémenter chez moi ? Est-ce que, en quoi ça va interférer ? Comment ça va changer mes métiers ? Et ça, nous, on veut, l'objectif de ce laboratoire, c'est que les entreprises pourront venir voir, tester des choses et voir comment ça va impacter leur propre métier. Donc nous, on va pas créer encore une fois des robots, on va pas créer des softs. On va être dans comment tout cela impacte dans les entreprises. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le fait.
On y reviendra évidemment au lendemain de cette conférence de presse. Nouvelle maison de l'entreprise du Gard, on est vite passé sur le sujet, ouverte en janvier 2025. C'est aussi un événement important pour le département et pour les entreprises.
Je crois que c'est un facteur important. Il n'y a pas de développement économique sans infrastructures. Il faut des infrastructures. Et nous allons effectivement avoir la livraison de ce bâtiment début 2025, janvier-février, une installation, une inauguration qui se fera deux ou trois mois après, parce qu'il faut, c'est un bâtiment qui est très technique, hein. C'est un bâtiment qui est en tertiaire sur l'Occitanie, qui a eu la meilleure note sur bâtiment durable Occitanie, donc on est BDO or, on a une note de 95 sur 100, il va falloir l'apprivoiser un petit peu, bien voir le fonctionnement, donc on fera une inauguration de deux ou trois mois après, mais ça sera effectivement, je pense que toutes les entreprises du Gard pourront en être fiers. Les entreprises qui l'ont construit, ça sera vraiment une vitrine. Alors, on n'est pas allé sur quelque chose de bling-bling, on n'est pas allé sur quelque chose de démesuré, mais je pense que ça sera un très joli bâtiment qui, pour les 30 ou 40 années qui viennent, vont aider au développement économique de l'ensemble du département.
Parmi les autres très beaux bâtiments à venir, il y a le Palais des Congrès de Nîmes, qui sera probablement inauguré dans la foulée, en tout cas, on peut l'imaginer, en tout cas en 2025. Là aussi, vous en attendez beaucoup.
Ah ben, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Encore une fois, il en va de même pour le tourisme, c'est-à-dire un tourisme. Quand vous avez des restaurants étoilés, si vous en avez quatre, vous avez beaucoup plus de gens qui viennent, de clients au restaurant que si vous en avez deux. Si vous avez trois hôtels 5 étoiles, vous avez beaucoup plus de personnes qui viennent que si vous en avez qu'un. Et tous ces investissements touristiques sont importants. Pour le faire fonctionner tout ça toute l'année, il y a différents types de touristes, il y a le tourisme individuel particulier et le tourisme d'affaires congrès. Et le tourisme d'affaires congrès, avec un palais des congrès situé juste en face des arènes, je pense que ça va amener un complément extrêmement intéressant pour l'hôtellerie, pour la restauration, mais aussi pour le commerce nîmois, puisque l'intérêt de ce positionnement, et vous savez ou pas que depuis longtemps je me bats parce qu'il y a eu plusieurs sites pour que ce soit le plus proche possible du centre-ville, parce que c'est là où les accompagnants des congressistes vont pouvoir se visiter Nîmes, dépenser
à proximité du musée de la Romanité, des arènes, tout un tas de lieux en effet de visite, et c'est très important en effet pour faire rayonner la marque nîmoise. On a l'habitude de dire que les chefs d'entreprise sont souvent plus rapides que les hommes politiques et femmes politiques de nos départements, pas simplement du Gard. Est-ce que vous avez ce sentiment que est-ce que d'abord vous menez vos projets seuls, ou est-ce que vous êtes réellement accompagné par les politiques dans ce département? Parce que tout joue quand même pour que ça avance vite.
Les deux, c'est-à-dire que on a une autonomie. La chambre de commerce aujourd'hui, c'est presque le seul endroit où les chefs d'entreprise ont gardé encore un pouvoir de décision. Donc, on a une autonomie, mais il est évident qu'on ne fonctionne pas sans son écosystème. Donc, on a 17 communautés de communes. Nous avons des conventions avec l'ensemble des communautés de communes. Le département intervient sur la partie tourisme, sur la partie militant du goût, etc. Et on travaille très bien avec le département, avec Gard Tourisme. On a des actions qui fonctionnent très bien. Et on a un certain nombre de sujets que nous traitons avec la région, bien entendu, sur un certain nombre d'axes, ou la région Occitanie. Voilà, on travaille avec l'ensemble des entités, évidemment. Mais on se doit... Nous sommes et nous devons rester force de proposition. Parce qu'on ne doit pas tout attendre des politiques, parce que vous avez évoqué la question de la rapidité, oui. Parce que les chefs d'entreprise regardent tous les jours où en sont leurs comptes courants, où en est leur trésor. Ils savent que dans quelques jours, il faut faire la TVA. Donc, avant le 25, il faut faire les payes. Donc, ils ont aussi, la récurrence de ces choses-là, de payer leur URSSAF, de payer toutes leurs charges, et ça c'est des choses qui viennent toutes les 4 semaines, et ça amène peut-être aussi une dimension de réel, de rapidité, d'agilité, parce que il faut avancer, une entreprise ça ne s'arrête jamais quoi.
Alors on vous sait homme de projet, Éric Giraudier, quels sont ceux que vous avez encore dans un carton là et que vous auriez envie de mettre en œuvre?
Alors j'en ai un certain nombre, mais je vous en parlerai un peu plus dans quelques jours. On va surtout avoir une méthode de réflexion sur ce département.
C'est-à-dire,
c'est quelque chose qu'on va présenter. Pas trop vous en parler.
Sans le présenter complètement officiellement, mais votre idée, quelle est-elle?
Mon idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de projets, mais il faut se projeter, avoir peut-être une vision un peu plus prospective sur l'ensemble du département, sur l'ensemble des filières, sur l'ensemble des bassins d'emploi que vous avez évoqués tout à l'heure. et structurer ça et donner peut-être des priorités, avoir un travail que nous allons faire avec les chefs d'entreprise pour justement pouvoir proposer à tous nos interlocuteurs sur les communautés de communes, au département, à la région.
Ça veut dire qu'il faut donner un calendrier, essayer d'aller au-delà de l'année courante, comme on le fait pour plein de projets.
Une entreprise, c'est le très court terme, c'est le moyen terme et c'est le long terme. C'est le mois, le trimestre, c'est l'année où les deux exercices glissants et c'est 5-7 ans. Et nous devons être dans ces trois axes, sur ces trois temporalités.
Alors, on a parlé beaucoup de long terme. Pour terminer, peut-être parlons du moyen terme. Je vous sais attaché aussi aux traditions, aux identités locales. On est à 2-3 semaines de la Feria de Nîmes. C'est un rendez-vous aussi économique que personnel, parce que vous êtes attaché à cette ambiance, je le sais.
Oui. Je m'en cache pas et je le soutiens très clairement. Après, c'est un choix personnel, c'est-à-dire moi je fais pas de prosélytisme. Moi, évidemment, bien avant d'habiliter Nîmes, je venais au Corrida. Mais effectivement, au-delà de la Corrida, qui est X milliers de personnes, et j'espère que ça sera X plus 10% parce qu'il y a il y a un superbe cartel cette année, c'est aussi... Il y a la Corrida, il y a des éléments autour du Taureau de Camargue, il y a des événements touristiques, culturels, des concerts, et c'est un vrai événement économique, hein, c'est certain, et c'est un événement économique très important, parce que ça permet, après l'hiver, ça permet de faire tourner un certain nombre de commerces qui, sur les 12 mois glissants, hormis les deux, sans les deux férias, ne pourraient pas tenir sur Nîmes et sur les alentours.
Et puis ça dit quelque chose aussi des traditions de notre département et aussi du dynamisme des gens qui y vivent.
Ça dit quelque chose des traditions de ce département, d'un monument qui est les arènes de Nîmes, qui est quand même extrêmement particulier, qui, de toute façon, l'architecture romaine a structure la ville de Nîmes, hein, qu'il s'agisse de la Maison Carrée, qu'il s'agisse des arènes, donc on a une structuration spécifique. On a un bâtiment comme ça qui est quand même extraordinaire, un monument qui est extraordinaire, et le faire vivre au travers des deux férias, au travers du Festival de Nîmes, au travers de toutes les animations de ce que peut faire EDIS, etc., ça c'est quand même magnifique, parce qu'un monument comme cela, s'il est uniquement statique, et si on ne fait qu'une visite du monument, c'est très bien, mais le faire vivre, je trouve ça extraordinaire.
Merci Éric Giraudier, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard, vous étiez mon invité ce soir sur Radio Aviva.
Merci de votre invitation.
Merci.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.